Sujet de discussion.
Présentation Aoussi Pota.
Bonjour, soyez les bienvenus à notre espace sujet de discussion. Nous sommes dans le mois d'octobre et comme chaque année, c'est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Nous aborderons donc aujourd'hui un sujet qui concerne des milliers de femmes chaque année, le cancer du sein. Un diagnostic qui bouleverse des vies, mais qui grâce aux avancées médicales permet de plus en plus souvent d'envisager la guérison définitive. Quels sont les enjeux actuels en termes de prévention, de dépistage et de traitement? Comment accompagner les patientes dans cette épreuve? Mais aussi, durant tout ce mois d'octobre, qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour être aux côtés de celles qui sont déjà touchées par le cancer du sein, mais aussi en tant que femme, comment s'en prémunir et quels sont les gestes utiles en termes de dépistage et de prévention? Pour en parler, je reçois aujourd'hui deux dames, on va dire d'abord des activistes, parce qu'elles sont fermement et fortement engagées dans le domaine de la sensibilisation et de la lutte contre le cancer du sein. Je vais commencer par celle qui est du corps médical, Dr Dossou Didi. Elle est médecin chirurgien, membre de la Fondation des femmes tsunamites en action. Dr Dossou Didi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous en prie.
À mes côtés, en plus du docteur Dossou Didi, nous avons Madame Tralou Martine. Elle est présidente d'une ONG, l'ONG Ciel Bleu. Elle est aussi membre de la coalition de lutte contre le cancer. Madame Tralou Martine, bonjour.
Bonjour.
Merci aussi d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Donc, merci à toutes les deux. J'indiquais tantôt en introduction un sujet sérieux, un sujet qui rassemble le monde entier chaque mois d'octobre, qui est dorénavant appelé Octobre Rose, parce que c'est une période donc d'activisme, de sensibilisation, d'information autour du cancer du sein de façon spécifique. Mais je voudrais déjà, pour que nos auditrices et auditeurs puissent mieux faire connaissance avec vous, que vous puissiez chacune présenter un peu, en dehors du secteur d'activité, surtout en termes donc d'activisme, vos différentes organisations non gouvernementales, ONG. On va commencer par vous, Madame Tralou Martine. L'ONG Ciel Bleu, en quelques mots, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le cancer du sein?
Merci. L'ONG Ciel Bleu est une ONG qui lutte contre le cancer dans le secteur du vivrier, sur le marché et en zone rurale. Quand nous savons que le cancer est un tueur silencieux, donc il y a lieu d'intensifier les informations, parce que dans notre langage on dit information, parce que celui qui n'est pas informé ne vit pas. Donc il faut informer toutes ces femmes qui vendent dans les marchés, qui sont en zone rurale, leur dire qu'elles sont concernées par le cancer.
Très bien. Lorsque vous parlez donc de zone rurale, ça on comprend bien, votre donc sphère d'intervention. Lorsque vous parlez maintenant du domaine du vivrier, ça veut dire sensibiliser les femmes sur les marchés, c'est ça?
Bien sûr, sur les marchés, surtout l'étendue du territoire, mais principalement à Bikin, parce que nous savons que les marchés, il y a assez de marchés sur Bikin. Et il faut quand même rentrer dans ces marchés, aller vers ces femmes, parce que quand on voit le temps du travail, elles n'ont vraiment pas le temps d'aller dans les centres de santé. Donc, il faut aller, l'information doit venir à ces femmes-là. Et donc, nous nous efforçons depuis combien d'années, plusieurs années, à aller vers elles, parce que c'est nos sœurs. Et nous-mêmes, étant du milieu, il faudrait qu'on prenne les choses en main. Et donc, nous essayons de les informer.
Très bien, d'accord. Voilà. Rapidement, l'ONG Ciel Bleu existe depuis combien d'années?
Depuis 2009.
2009.
15 janvier 2009.
15 janvier 2009, d'accord, ça fait beaucoup d'années. Merci déjà, Madame Tralou Martine, donc, pour toutes ces informations. Docteur Dossou Didi, vous êtes du corps médical, vous êtes membre de la Fondation des femmes tsunamites en action. Très rapidement, cette fondation aussi, elle existe depuis combien d'années? Qu'est-ce que vous faites exactement dans le cadre de la sensibilisation, lutte contre le cancer du sein?
Merci. Alors, la Fondation des femmes tsunamites en action existe depuis 8 ans. Depuis 2016, nous sommes sur le terrain. Nous organisons des journées de dépistage et de sensibilisation à travers toute la Côte d'Ivoire, non seulement à Abidjan, dans les grandes villes, mais également en zone rurale. Et nous essayons, dans la mesure de nos maigres moyens, de soutenir financièrement, moralement, celles qui sont atteintes.
Très bien. En tout cas, nous nous réjouissons que donc, vous soyez avec nous en studio aujourd'hui pour parler donc de la lutte contre le cancer du sein dans le cadre donc de la journée mondiale du mois d'octobre rose, octobre consacré donc à la lutte contre le cancer du sein. Alors, docteur Dossou, je vais rester un peu avec vous pour voir avec vous, lorsqu'on parle du cancer du sein, bon, pour les auditrices, auditeurs, qui ne sauraient pas trop de quoi il s'agit. C'est quoi le cancer du sein et pourquoi c'est important que nous puissions nous en préoccuper aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Peut-être avec quelques chiffres à l'appui, hein.
Tout à fait. Alors, le cancer du sein, ben, c'est comme tous les cancers, c'est une maladie liée au développement anarchique des cellules de la glande mammaire du sein. Alors, c'est la fameuse boule dans le sein dont on a entendu parler, pour laquelle Madame Agnès Crédy a fait des publications, a écrit un livre. Donc, c'est la boule. Mais il faut savoir que lorsque on sent la boule, au stade de la boule, la maladie est déjà avancée.
Pardon.
Et donc, l'objectif des journées de dépistage, c'est de trouver la maladie chez une personne qui ne se sait pas malade.
Maintenant, pourquoi c'est important de s'en préoccuper pour une femme?
C'est important parce que lorsque c'est dépisté tôt, on peut en guérir.
Alors, parlant de chiffres aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée quand même des chiffres lorsqu'on parle du cancer du sein en Côte d'Ivoire?
Tout à fait. Alors, le cancer du sein demeure le premier cancer féminin qui touche les femmes en Côte d'Ivoire, responsable de 54% de décès. C'est un cancer qui, dans 74% des cas, est découvert à un stade tardif où les moyens thérapeutiques sont peu efficaces. Alors, pour vous dire, en 2022, on a relevé 3869 nouveaux cas.
Ça a en l'air, 2022.
Oui, ça a l'air faible comme chiffre, mais en réalité, c'est sous-estimé parce que ça ne tient pas en compte celles qui ne sont pas allées au bout de la démarche diagnostique, celles qui se retrouvent en zone reculée et qui n'ont même pas été vues et donc enregistrées au programme de lutte contre le cancer.
Alors, Madame Tralou, Martine, vous donc qui œuvrez dans le domaine de la sensibilisation, de la lutte en zone rurale, mais surtout dans le domaine donc du vivrier, sur les marchés et autres, on vient donc d'écouter Dr Dossou Didik nous partager ces chiffres-là. Vous avez noté aussi, vous l'indiquiez tantôt à l'introduction, lorsque vous intervenez, que les femmes qui sont sur les marchés, c'est pas évident qu'elles aient le temps, se faire dépister. Vous allez donc vers elles. Vous avez senti aussi une prévalence aujourd'hui en termes d'augmentation de femmes touchées par le cancer du sein sur les marchés aussi?
Bien sûr. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre engagement est dû à cela. Parce que beaucoup d'entre nous, dans les marchés, sont vraiment... parti trop tôt dû à cette maladie-là. Et donc, il fallait se lever quand même pour informer celles qui sont là, pour dire qu'on n'est pas à l'abri, quoi. Donc, il faut être informé tôt pour pouvoir prendre les dispositions.
D'accord. Voilà, donc. Et à ce jour, vous avez parcouru combien de marchés? Tous les marchés d'Abidjan
Tous les marchés d'Abidjan. Tous les marchés d'Abidjan ou tous les quais de déchargement d'Abidjan. On est même allé à l'intérieur. Voilà, aller à l'intérieur dans les villages les plus reculés. Voilà, même en 2000, cette année-là, on était à Zenoula, on était à Logwale avec Tom Tsunamit, parce qu'on travaille en collaboration.
C'est ça.
Et donc, on compte, comme elle a dit tout à l'heure, hein, avec les faibles moyens, mais on essaie quand même de faire quand même beaucoup. Parce que une vie humaine, on ne peut pas dire qu'on fait assez, hein, on fait toujours.
C'est ça, tout à fait. En tout cas, nous apprécions votre dévotion, votre dévouement, votre engagement fermé à toutes les deux à travers vos différentes structures, organisations dans le domaine de la lutte et de la sensibilisation contre le cancer du sein. Alors si vous venez de nous prendre en marche en tant qu'auditrice et auditeur de Radio de la Paix, sachez que vous êtes à l'espace sujet de discussion. Nous parlons donc aujourd'hui du cancer du sein chez la femme dans le cadre de octobre rose, hein, le mois d'octobre donc consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et mes deux invités sont Dr Dossou Didik, elle est médecin chirurgien, membre de la Fondation des femmes tsunamites en action, et Madame Tralou, présidente de l'ONG Ciel Bleu, membre de la coalition de lutte contre le cancer.
Sujet de discussion.
Présentation à Aoussi Pota.
Je reviens à vous, mesdames. Tout à l'heure, docteur Dossou Didik, vous nous partagez des chiffres. Hein. Alors, au-delà des chiffres, le cancer du sein, est-ce qu'il touche davantage certaines catégories de femmes? En termes d'âge, antécédents, familiaux et autres.
Alors, est-ce qu'il touche certaines catégories? On va dire qu'il y a des facteurs de risque. On va dire que déjà, il y a un facteur génétique, à savoir que si dans la famille, la mère, la tante, la grand-mère ont eu un cancer du sein, le risque d'avoir un cancer dans cette descendance-là est élevé. Donc, dans cette famille-là, les femmes doivent se surveiller. Maintenant, les autres facteurs de risque sont l'obésité, la sédentarité, une première grossesse tardive. Voilà, il y a des facteurs hormonaux. Donc, il y a tout un lot de facteurs de risque qui vont faire que on a plus de risques de faire un cancer, mais ça n'épargne aucune classe sociale. Voilà.
D'accord, on les retrouve un peu dans tous les corps.
Dans tous les milieux, dans tous les corps.
Dans tous les milieux, corps de métier, autres,
tout à fait.
En Côte d'Ivoire.
Oui.
D'accord. Madame Traloù, Martine, revenons donc à vous, votre domaine d'intervention. Tout à l'heure, docteur Dossou indiquait au niveau des facteurs de risque la sédentarité. Mm-hmm. Est-ce qu'a priori, on peut dire ces femmes qui sont sur les marchés, elles sont moins sédentaires que nous autres qui sommes dans les bureaux?
Mais pas du tout. Mm-hmm. Pas du tout.
Ah, moi, je me dis, elles bougent, elles vont chercher leurs produits, elles reviennent, bon.
Bon, parce que le domaine du vivrier, il est vaste. Hein. Mm-hmm. Il y a d'autres qui sont sur place. Mm-hmm. Et il y a d'autres qui sont vraiment mobiles aussi.
D'accord. Est-ce en dehors de... Oui, allez-y.
Donc...
C'est pas pertinent.
Quoi.
D'accord. En dehors des facteurs de risque dont a parlé docteur Dossou, Didier, mm-hmm. est-ce que vous avez constaté d'autres facteurs de risque aussi au niveau donc, des femmes?
Bon, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Le manque d'informations. Mm-hmm. Parce qu'elles ne sont pas... assez informées, et d'autres même, quand elles entendent cancer, elles ne veulent rien savoir. Elles ne veulent rien savoir, parce que déjà, cancer, vous avez dit la mort. Ce qui n'est pas vrai.
C'est ça. Voilà. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons donc en parler tout à l'heure. Merci déjà pour ces points. Alors, revenons donc à d'autres aspects donc, de notre échange de ce jour. Donc, on indiquait tantôt l'importance donc, de s'informer. Le dépistage est important à ce niveau. Alors, si dans ce cas, une femme découvre qu'elle a une anomalie au niveau mammaire, docteur Dossou Didi, quel est le processus de diagnostic?
Alors, la présence d'une anomalie au niveau du sein ne veut pas forcément dire cancer. Déjà, il faut qu'on rassure les femmes. La présence d'une anomalie doit conduire la femme à aller consulter. Une fois qu'elle va consulter le personnel du monde médical, on fera toute une batterie d'examens, notamment l'échographie mammaire, la mammographie, le scanner et voire plus, et surtout une biopsie. La biopsie va poser le diagnostic au niveau cellulaire, donc préciser si c'est vraiment un cancer et quel type de cancer, parce que le traitement dépend de cela.
Alors, est-ce que ce sont des interventions ou encore des actions médicales qui aujourd'hui coûtent, sont chères ou bien c'est accessible aux populations de façon générale?
Alors, le programme...
Vous avez parlé de la biopsie, de la mammographie.
Mmh. Oui, il faut dire
coûteux
que...
Coûteux ou pas?
Alors, si on se trouve en zone urbaine, c'est disponible. Mmh. En zone rurale, c'est une autre histoire.
À peu près, nous sommes à combien aujourd'hui? Une mammographie, une biopsie?
Alors, une mammographie, ça dépend. Dans le public, c'est à 5000 francs en temps normal. Et pendant le mois d'octobre, la plupart des mammographes dans le public le feront à 2000 francs, mais juste pendant le mois d'octobre.
Juste dans le mois d'octobre.
Oui.
D'accord.
Voilà.
Allez-y.
La biopsie mammaire, ça coûte un peu plus cher, ça tourne autour de 35 000 francs et plus. Mm-hmm. Voilà.
Alors là, on suppose que quand ça coûte cher comme ça, Madame Traloù, c'est là que vous intervenez en tant qu'ONG. Est-ce que vous arrivez à soutenir ces femmes-là? Parce que j'imagine qu'une femme en zone rurale ou bien une femme commerçante sur un marché, ce n'est pas évident pour elle d'avoir 35 000. Aussi aisément, est-ce que là, vous avez les moyens d'intervenir, de les soutenir? Comment se passe pratiquement votre assistance à ce niveau?
On les soutient selon nos moyens.
D'accord.
Voilà. On les fait moyens, comme docteur Dossou l'avait souligné tout à l'heure. On essaie de les soutenir. Par exemple, ce matin, j'étais chez une malade. Mm-hmm. Quand je dis malade, mais vraiment malade, quoi.
Mm-hmm. Est-ce ça d'avancer?
Oui, parce qu'elle a des boules, qui c'est visible.
Mm-hmm. Et elle a même tout pas ses... une boule. Plusieurs.
Voilà, il y en a dans les fesses, il y en a. Et donc, du coup, tous ces panoplies d'examen, elle a fait sortir. Je suis restée bouche bée, parce que je n'avais vraiment pas les moyens. Mais je l'ai quand même encouragée pour lui dire qu'avec le mois d'octobre, on va voir ce qu'on peut faire, parce qu'elle doit faire un scanner, elle doit faire beaucoup de choses à la fois. Elle a fait sortir, elle m'a donné. J'ai essayé de l'encourager pendant une trentaine de minutes. Pour lui donner le temps, un temps soit peu de l'espoir, pour dire que malgré la boule là, elle peut s'en sortir. Et donc, ce n'est pas facile pour les ONG de pouvoir prendre ne serait-ce qu'une personne en charge.
Oui.
Parce que c'est très lourd. Parce que quand on dit une personne, c'est toute la famille qui est impactée.
Mm-hmm.
Et donc, ce n'est pas facile.
D'accord. Alors là, vous parlez de toute la famille qui est impactée. Parlons-en. Comment est-ce qu'une personne qui est touchée par le cancer du sein dans une famille, tout cela peut réjaillir sur toute la famille, docteur Dossou, en termes d'impact? Parce que c'est important de faire qu'on pense à nos auditeurs.
Oui, alors déjà, c'est l'impact sur le moral, parce qu'on se retrouve devant une personne malade, une personne qui souffre, et si elle n'est pas prise en charge, et parfois même lorsqu'elle est prise en charge, il y a une telle souffrance qui rejaillit sur toute la famille. Voir sa maman, sa tante, sa fille souffrir, c'est extrêmement douloureux. À cela, souvent, s'ajoute malheureusement le poids financier de se voir impuissant à acheter les médicaments, tout simplement, ça pèse encore plus sur le moral de membres de la famille, alors que la famille est censée soutenir le malade. Donc, l'impact de cette maladie est tellement étendu. Il y a tellement de familles endeuillées, d'enfants qui se retrouvent orphelins de mère aujourd'hui, que ce combat-là implique normalement toutes les femmes de Côte d'Ivoire.
D'accord. Un additif, Madame Tralou ? Vous aimeriez ajouter quelque chose ?
Bon, c'est toujours dans le même sens. Hein. Les familles, souvent, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand tu es face à ta mère qui est dans une situation vraiment difficile où tu manques de moyens financiers, c'est pas chose aisée.
D'accord. On imagine, hein, si par exemple c'est cette femme-là qui portait tout le poids économique de la famille, si elle est touchée, ça va aussi impacter la vie économique de la famille. Mmh. Alors, d'où l'importance, comme l'avait souligné toutes les deux plus haut, du dépistage, on va dire précoce, de se faire dépister régulièrement. Alors, à quel âge doit commencer le dépistage, docteur Odosou Didi?
Alors, le dépistage commence à 18 ans, en général. Bon, il faut dire qu'en zone rurale, on s'est retrouvé avec des jeunes filles de mineurs, on va dire, 15 ans, déjà porteuses de grossesse. Mm-hmm. Donc là, on va commencer parce qu'il y a un élément hormonal aussi qui est déjà entré en jeu. Donc voilà, autour de 18 ans pour les dépistages. En fait, dans le dépistage, on s'attache à ce que la femme connaisse son corps, c'est-à-dire fasse son autopalpation régulièrement et puisse détecter la boule à un stade où elle n'a même pas de symptômes. Juste la modification de son sein, cette anomalie-là, qu'elles sont au bout du doigt, qui peut être tout et n'importe quoi, mais qui peut paraître anodine. C'est à ce stade-là qu'on voudrait qu'elles s'engagent sur le chemin, sur le parcours du diagnostic, pour être libérées de ce poids.
D'accord. Alors, tout à l'heure, vous indiquez donc, docteur Dossou, qu'en milieu rural, c'est pas 18 ans, vous avez trouvé donc des jeunes filles de 15 ans, déjà qu'il fallait donc dépister. Madame Tralou, vous qui travaillez donc en milieu rural, ce constat, vous l'avez fait aussi?
Oui, bien sûr, bien sûr. Dans toutes les villes où nous sommes passés, il y a, comme elle le disait tout à l'heure, des filles de 14 ans. Je me rappelle, on était à Zenoula, et elle avait 14 ans.
Village, mais Zenoula-ville.
Zenoula-ville.
D'accord.
Et donc, une jeune fille qui est venue vers nous, on l'a sensibilisée, elle n'a pas voulu, mais après, bon, elle est revenue, et puis elle avait des lésions.
Ah. Au départ, elle était réticente.
Voilà.
Et elle revient finalement.
Et c'était le dernier jour pratiquement. Elle avait une lésion, mais il fallait traiter sur place.
Et qu'est-ce qui l'a poussée à revenir?
Bon, c'est parce qu'il y a ses camarades qui ont eu à le faire. Et donc, elle est venue.
D'accord. Et son père voit comment s'est passé la suite. Ça a été guéri à son niveau?
Oui, quand il y a les lésions, on essaie de les traiter sur place.
D'accord.
Voilà. Donc, les lésions qui ne sont pas vraiment avancées, on peut les traiter sur place.
Ça, c'était en quelle année?
C'était l'année dernière.
L'année dernière. Vous avez laissé une nouvelle, cette jeune fille?
Oui.
Elle va bien?
Elle va bien.
Bon, donc
toutes ces personnes qui avaient des lésions, il y avait 21 personnes au total. Et je suis en contact avec 18 personnes.
Qui vont bien aujourd'hui?
Qui vont bien.
Bon, et là, le secret, ça aurait donc été le dépistage précoce.
Précoce, bien
bon,
sûr.
D'accord. Donc, ça, c'est, au moins, c'est bien illustré. On ne dira pas que ce n'est pas vrai. Alors, on va rester un peu sur ce point-là, le point donc de l'importance du dépistage. Merci beaucoup, hein, Madame Tralou Martin, de nous partager cet exemple-là qui souligne l'importance du dépistage précoce. Alors, vous avez parlé plus haut de différentes méthodes de dépistage, mammographie, auto-examen, on parle d'autopalpation aussi. Docteur Dossou Didi, on ne va pas être exhaustif. Prenons quelques méthodes de dépistage et nous indiquer leurs avantages pour la femme. Comment y procéder et puis aussi les limites peut-être.
D'accord. Alors, la première méthode de dépistage, c'est l'autopalpation sur laquelle on insiste énormément. Cela consiste pour la femme à se mettre 8 à 10 jours après les règles devant son miroir et s'examiner, c'est-à-dire vérifier l'équilibre entre les mamelons, l'aspect de ses seins et puis faire la palpation pour détecter la fameuse boule. Mais il faut savoir que lorsque la boule est touchée par la main, elle a déjà une taille importante qui constitue des milliards de cellules. La mammographie qui est faite parfois sans aucun symptôme dans la surveillance d'une femme après 45 ans va trouver une anomalie qui peut-être ne sera pas sentie au doigt. Voilà, donc la mammographie est plus précise que l'autopalpation. La mammographie permet de détecter des lésions plus petites que celles que la main va détecter. Bon, le scanner, l'échographie, ça, c'est vraiment plus des méthodes de bilan d'extension que de diagnostic.
Alors, si on prend l'autopalpation et la mammographie, est-ce que vous conseillez donc à une femme de faire les deux?
Déjà.
Et à quelle fréquence?
Déjà, la mammographie, c'est tous les 2 ans, à partir de 45 ans. Mais la meilleure méthode, c'est que ça reste encore l'autopalpation. Parce que ça oblige la femme à rester en contact avec le milieu médical. Et les examens nécessaires seront demandés en fonction de ce que le personnel qui l'a examiné va trouver. Donc, celui qui a l'habitude est encore plus précis que la personne lambda qui fait son autopalpation. Il y a des signes qui peuvent échapper à la femme, que la sage-femme, le médecin, le gynécologue, l'oncologue vont voir plus facilement. Toutefois, il y a des déformations, des anomalies qui sont symptomatiques et c'est celles-là malheureusement qu'on voit chez nos femmes parce qu'elles arrivent tard. Mmh. Donc vraiment, l'objectif du dépistage, c'est que la femme, elle a l'impression quand elle se regarde qu'il n'y a rien, mais c'est seulement lorsqu'elle se touche ou parfois lorsque le partenaire touche que l'anomalie est détectée et puis investiguée. Pour aboutir au diagnostic.
D'accord. Alors, vous en parlez tout à l'heure aussi l'importance du partenaire pour les femmes qui sont mariées, en l'occurrence. Le partenaire peut aider aussi à l'autopalpation.
Oui, les partenaires ont été des vecteurs de diagnostic. C'est-à-dire, d'accord. C'est le partenaire qui a dit, mais ton sein n'est pas comme d'habitude. Mm-hmm. Et puis voilà, ça a amené la femme à rentrer dans la démarche diagnostique, à aboutir au diagnostic.
Madame Kralou Martine, est-ce que les femmes sont réceptives en général sur les marchés, en milieu rural, mais en milieu urbain, lorsque vous les encouragez, comme vient de dire docteur Dossou Didi, à être prompt systématiquement à appliquer l'autopalpation. Est-ce qu'elles savent aussi comment s'y prendre? D'abord, est-ce qu'elles y adhèrent facilement?
Bon, pas facilement, comme je le disais, mais à force d'insister, à force d'un depuis des années, nous sommes sur les marchés. Hein, et nous essayons de les encourager. Parce qu'il y a d'autres qui étaient peut-être à tes côtés. Tu ne les vois plus. Bon, on dit généralement, on ne sait pas de quoi elle est décédée. Mais après, avec les explications, quand on leur explique, ah, mais on ne savait pas. Mais mieux vaut savoir que ne pas savoir.
C'est ça.
Et donc, c'est ce que nous nous attelons à faire. Chaque fois que l'occasion nous est donnée d'aller dans les marchés, leur dire soit elles peuvent s'auto-palper elles-mêmes, et on essaie de leur montrer un peu comment ça se fait, et leur donner même des dépliants où il y a les images dessus. Pour leur dire que voilà comment tu peux procéder devant ton miroir dans ta maison, le faire. Ça ne te coûte rien du tout. Mm-hmm. Le temps, peut-être, c'est 5 minutes. Et donc, c'est ce qu'on essaie de véhiculer comme message auprès de ces femmes-là.
Alors, je voudrais indiquer pour celles ou ceux qui viendraient donc de nous prendre en marche que vous êtes à l'écoute de sujets de discussion sur Radio de la Paix. Dans le cadre de Octobre Rose, le mois d'octobre consacré chaque année à la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, nous recevons 2 invités, en l'occurrence Dr Dossou Didi, elle est médecin chirurgien, membre de la Fondation des femmes tsunamites en action, et Mme Kralou Martine, présidente d'une ONG, l'ONG Ciel Bleu, membre de la coalition de lutte contre le cancer, en compagnie donc de ces 2 dames. Nous passons en revue ce qu'il est important de savoir sur le cancer du sein, mais aussi en matière de prévention, de dépistage et d'information, ce qu'il est important que les uns et les autres sachent.
Sujet de discussion.
Présentation Aoussipota.
Voilà, retour à vous, chers invités. Alors, je voudrais qu'on voit un peu avec vous. Hein. On a parlé tout à l'heure donc des méthodes de dépistage, autopalpation, mammographie, des examens médicaux peut-être plus poussés. Madame Tralou, vous nous avez partagé aussi quelques difficultés avec les femmes, hein, que vous devez donc sensibiliser régulièrement sur ce point-là. Alors, pour insister là-dessus, quel conseil est-ce que vous pourrez donner aux femmes qui hésite à se faire dépister par crainte ou par peur? D'abord, docteur Dossou.
Alors, comme dit Madame Tralou, c'est l'ignorance qui tue. Mm-hmm. Ces femmes-là ne savent pas que cette maladie peut se guérir. Elles ont vu une amie, au marché, hein, une voisine disparaître du marché. Et puis, quelques temps après, on annonce son décès. Mmh. Elles ont su souvent, mais ça reste un tabou parce que ça touche la sphère génitale. Parler du sein demeure un grand tabou que nous devons vaincre en Afrique. Donc, c'est ce qui fait que les femmes paient encore un lourd tribut au cancer du sein. Je dirais aux femmes qu'on ne le répétera jamais assez, mais que le cancer du sein, lorsqu'il est dépisté tôt, on peut en guérir. On peut en guérir totalement. On peut en guérir sans chirurgie. La chirurgie n'est pas obligatoire. Quand elles entendent cancer du sein, elles voient l'ablation du sein. Mmh. Donc, une perturbation de leur féminité. Mmh. Non. Lorsque c'est dépisté tôt, on n'est pas obligé de subir la chirurgie. C'est ça qu'elles doivent comprendre. Voilà. Donc, on les rassure que ça ne fait pas mal. L'autopalpation, évidemment, ça fait pas mal. Mais même la mammographie, ça fait pas mal. Mmh. Et le plus important à retenir, c'est vraiment que dépisté tôt, on en guérit.
D'accord. Voilà. Avant d'en revenir sur l'ablation du sein, j'ai juste une question là-dessus. Je vais laisser Mme Tralou sûrement faire un additif aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez aussi dire à ces femmes-là qui hésitent à se faire dépister, par crainte, par peur?
À toutes ces femmes qui m'écoutent, mm-hmm. je leur demanderais que ce mois d'octobre est le mois dédié au cancer du sein. Et une femme malade, c'est toute la maison qui est malade. Mieux vaut savoir que ne pas savoir. J'insiste auprès de toutes mes sœurs, mes amies, toutes celles qui entendront ma voix, de s'élever, toutes de donner la main pour dire que le cancer doit aller loin de nous. Et pour que le cancer aille loin de nous, il faut que nous nous levons, il faut que nous sachions que nous nous portons bien. Comme j'ai dit tantôt, une femme malade, c'est toute la maison qui est malade. Et quand nous savons que toutes ces femmes-là sont les piliers de l'économie, il faudrait que nous ayons des femmes en bonne santé. Donc, j'invite toutes les femmes à se faire dépister.
D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cet appel. Alors, je vais revenir avec vous, docteur Dossou Didi, sur l'ablation du sein. Alors, à quel moment est-ce que, en termes, puisque là, on parle du cancer du sein, l'ablation du sein devient inévitable, incontournable?
Alors, l'ablation du sein, c'est la chirurgie. Elle fait partie de la panoplie thérapeutique, des armes que nous avons à disposition pour traiter le cancer du sein. Mais on n'utilisera que lorsqu'on se retrouve devant un sein détruit. Souvent, elles disent « j'ai un abcès, ça dure depuis un mois, deux mois, trois mois. Mm-hmm. Cet abcès-là devient une crevasse dans le sein, c'est malodorant, c'est douloureux. » On en vient à faire de la chirurgie de propreté mm-hmm. pour déjà enlever tout ça. Et quelquefois, parce que c'est assez localisé, la chirurgie peut également être partielle pour enlever le foyer de la maladie. Mm-hmm. D'où la maladie peut s'étendre à tout le reste. Donc, on enlève ce foyer-là au niveau de la dame. Mais ça dépend du stade auquel c'est découvert, ça dépend du type de cancer également.
Alors, est-ce qu'il y a des mesures préventives qui permettent de réduire les risques d'être victime du cancer du sein au niveau de la femme, mesdames? Est-ce qu'il y a des mesures préventives en termes de mode de vie, alimentation? Bon, je ne sais pas trop, hein, c'est vous qui êtes les spécialistes, hein, oui. qui êtes sur le terrain de façon générale. On commence par qui? Madame Tralou ou docteur Dossou? Madame Tralou va compléter.
Alors, les facteurs de risque qu'on a cités un peu plus haut, peut-être on va revenir dessus, c'est la sédentarité, la prise de poids, l'alimentation riche en gras, en sucre, voilà, pauvre en légumes et fruits, la consommation d'alcool, voilà. Donc, voilà, les moyens de prévention, c'est cela, lutter contre la sédentarité, faire du sport, éviter le stress, et limiter la consommation d'alcool. Le tabac également, si possible, arrêter le tabac. Voilà, ce sont nos moyens de... C'est les bonnes habitudes de vie qui ne sont que bénéfiques pour le corps dans son intégrité.
Donc, on pourrait parler d'avoir une bonne hygiène de vie.
Exactement.
D'accord. Quand on parlait de limiter la consommation d'alcool, donnez-nous une idée. Bon, je vois que vous souriez là. Parce que bon, c'est vrai que je ne suis pas une femme, moi je suis amateur de vin. Je ne m'enivre pas, rassurez-vous, mais bon, du bon vin de temps en temps à table, ce n'est pas mauvais.
Oui, de temps en temps, à consommer avec modération, comme c'est écrit maintenant sur les bouteilles de vin.
D'accord. Bon, d'accord. Madame Tralou, Martine, additif, vous avez souri aussi. Vous prenez un peu de vin de temps en temps à table quand même.
Hein? Oui, quand même, une fois en passant. Bon, une fois en passant. Voilà, pas vraiment une habitude, mais une fois en passant. Mm-hmm. Et puis, j'insiste sur le fait de... Elle a tout à l'heure dit une bonne alimentation. Voilà, moins de sucre. Moins de sucre, moins de gras pour les femmes. Parce que quand on prend du poids, chaque année, la femme change de morphologie. Donc, il faut faire attention à son alimentation. Assez de fruits, de légumes, bon, toutes les bonnes choses, quoi.
D'accord. Voilà. Les bonnes choses
et saines. Avec modération, bien sûr.
D'accord, la modération est de mise. Mm-hmm. Alors, parlons un peu, donc, c'est vrai, vous avez dit, hein, vous avez répété, c'est un peu aussi le sens de cette émission qu'on a voulu faire avec vous. Vous l'avez dit plus haut, je voudrais juste répéter, on n'est pas obligé de mourir du cancer du sein. Mm-hmm. On peut en guérir, du moins, si l'on se fait dépister tôt. Bon, malheureusement, c'est une maladie qui existe toujours. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même quelques avancées en termes de traitement? Est-ce que vous avez une idée quant aux innovations, peut-être, hein, récentes en matière de recherche sur le cancer du sein, docteur Dossou Didi?
Oui, aujourd'hui, le traitement du cancer du sein a beaucoup évolué. Comme je dis, il existe des thérapies innovantes qui permettent justement de traiter un cancer sans chirurgie. Donc, vraiment... C'est de grosses avancées. Et puis, le fait de savoir qu'on appartient à une fratrie, enfin, une sororité, qu'il y a des cancers dans la famille. Donc, le facteur génétique, lorsqu'il est pris en charge, ça permet aux oncologues de donner des thérapies ciblées. Mm-hmm. Parce que on connaît de manière encore plus pointue la nature histologique, génétique, jusqu'à l'ADN de ce cancer, ce qui permet de donner des médicaments beaucoup plus ciblés. D'accord. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup évolué.
Alors, est-ce que le cancer serait héréditaire? Parce que tout à l'heure, vous dites, bon, vous disiez dans la famille, si il y a une personne qui est atteinte par le cancer, est-ce qu'il y a un risque plus élevé qu'on puisse avoir d'autres membres de la famille qui puissent aussi être touchés par le cancer?
Absolument.
C'est héréditaire.
Alors, c'est pas, il y a des formes héréditaires, c'est un facteur de risque, l'hérédité. Le fait d'avoir dans ses ascendants, dans sa famille, une femme porteuse de cancer du sein, vous met plus à risque qu'une femme dans laquelle la famille n'a pas eu ce genre de problème.
Et quand on l'élargit à toutes les formes de cancer, ce risque aussi existe toujours?
Ah non, pas tous les cancers.
Pas tous les cancers. Voilà. D'accord, mais dans le cas du cancer du sein, il y a aussi le risque que si on a un membre de la famille qui l'est porté, oui, d'autres femmes peuvent aussi l'avoir.
C'est ça.
Est-ce que là, déjà, donc, on a ça à l'esprit, on peut anticiper?
Absolument. Si
quoi,
la femme qui sait que
ça...
Au lieu
de nous répéter, hein, mais allez-y.
Ah non, c'est important de savoir que si dans votre famille, votre mère, votre tante, votre grand-mère, une cousine ont eu le cancer du sein, allez consulter. N'attendez pas d'avoir un symptôme, allez consulter. C'est le meilleur moyen de prévenir. Voilà, de se faire examiner régulièrement, de faire ses mammographies religieusement aux dates données. Voilà, ça permet de sauver des vies.
Alors, Madame Tralou, c'est un discours aussi que vous tenez dans les campagnes de sensibilisation auprès des femmes que vous rencontrez?
Oui.
Voir dans la famille, si quelqu'un était déjà atteint par ça, il faut systématiquement prendre le taureau par les cornes?
Bien sûr, on essaie d'aller toujours vers ces femmes-là. Mm-hmm. Parce que souvent, on leur demande, hein, okay, est-ce que tu connais... Elle dit, oui, j'avais ma grand-mère, la petite sœur de ma grand-mère, qui a eu un sein, mais on ne savait pas que c'était le cancer. Mmh. Et puis après, le sein était vraiment parti par la plaie, comme ils appellent comme ça, la plaie, et puis bon, elle est décédée. Donc, c'est l'occasion pour toi de pouvoir te prendre en charge. Quand je dis te prendre en charge, il faut se faire dépister tôt pour voir déjà si tu es exposé ou pas. Donc, c'est ce message, on essaie de leur faire passer chaque fois. Parce que quand on leur demande, tu connais le cancer? Non, je ne connais pas. Ah, mais puis quand on sait, ah oui, j'avais ma tante qui avait eu plaie sur le sein et puis après, ça n'a pas été guéri, tout ça, parce qu'elle n'est pas allée à l'hôpital. Aujourd'hui, comme moi, j'aime le dire sur le marché, j'ai dit, l'hôpital vient vers vous. Parce que tous ces médecins avec qui nous sommes associés, toutes ces sages-femmes, ces infirmières, nous parcourons les marchés, ça veut dire que l'hôpital vient vers vous. Ça veut dire que vous êtes importante aux yeux du corps médical. Et donc, quand il vient vers vous, à vous de vous lever, aller vers les... Souvent, il y a des tentes, il y a les centres de santé. Actuellement, tous les centres de santé, pratiquement, sont pour Octobre Rose. Le dépistage est ouvert un peu partout.
Et rapidement, est-ce que vous, au niveau des ONG, vous sentez l'appui, le soutien des pouvoirs publics? Bon, je vois Mme Tralou qui fait une moue, là, qui fait la moue, là. Vous hésitez à répondre oui, c'est difficile.
C'est difficile.
Vous ne vous sentez pas vraiment soutenu, surtout
bon,
en rapport avec la lutte contre le
cancer? On voit
que
ces dernières années, quand même, ils sont quand même engagés. Mm-hmm. C'est un début timide, mais on pense que dans les années à venir, il y aura plus de... Voilà.
D'accord, mais il y a un mot que vous avez oublié là. Mais il y a encore d'autres choses que vous espérez.
Oui, on espère beaucoup.
Fin, mais faut en parler en même
voilà,
temps.
On espère beaucoup parce que quand les pouvoirs publics sont engagés, je crois que c'est tout le pays qui est vraiment engagé. Mmh. Et donc, c'est cet appel-là qu'on lance à toutes nos autorités. Quand j'ai dit autorité, ben, tout le monde est autorité. Mmh. Toutes les autorités, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les grandes villes, dans les municipalités, il faudrait que tout le monde s'engage à cette lutte-là, parce que c'est une lutte qui en vaut la peine.
D'accord, c'est bien d'en parler. J'insistais là-dessus parce que j'ai été personnellement touché par l'exemple que vous avez donné, cette dame que vous découvrez, qui est aujourd'hui atteinte, mais vous vous trouvez limitée avec toutes les ordonnances qu'elle vous présente. Vous avez aussi vos limites.
Oui, ben, en tant qu'être humain, on a ses limites aussi.
À plus forte raison en tant qu'ONG.
À plus forte raison en tant qu'ONG. Ah, vous avez vu comment j'ai transpiré pour arriver ici?
Non, ça, je ne fallait pas le dire, c'est autre chose. D'accord.
D'accord.
Le sacrifice. Merci, Madame Tralou, merci. Docteur Dossou Didi, elle a dit là-dessus, on va passer à un autre point.
Oui, alors je veux dire que le gouvernement fait beaucoup quand même. La construction des CNRAO, nous l'avons applaudi, parce que c'était nécessaire qu'il y ait un centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. Ça a été le premier, il y a d'autres qui sont en projet. Les centres de mammographie à tarif étudié au public se multiplient dans les régions. Voilà, donc la couverture n'est pas encore totale, mais bon, ça avance. L'autre côté, c'est vraiment la prise en charge des médicaments, des soins. Ça coûte excessivement cher. C'est ce qui fait même qu'elles ne viennent pas parfois parce qu'elles se disent, elles ne veulent même pas savoir. Elles disent, mais si tu me trouves une maladie potentiellement létale, mais que j'ai pas les moyens de me soigner, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Et ça, c'est notre réalité. Les fonds sont difficiles à collecter. J'invite toutes les femmes, lorsqu'elles vont aller vers une ONG pour se faire dépister, à mettre 100 francs, 500 francs dans la boîte de collecte de dons. 100 francs, c'est pas, ça a l'air petit, mais ça fait beaucoup. Lorsqu'on se mettra ensemble, nous les femmes déjà, pour s'autofinancer, on pourra faire des merveilles et on pourra encore se tourner vers le gouvernement pour appeler à la gratuité. C'est notre objectif final, l'objectif final que toutes les ONG visent.
D'accord, c'est important de vraiment d'en parler parce que la découverte d'une pathologie, quelle qu'elle soit, a toujours un impact psychologique sur l'individu.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est bon aussi de toucher ça. Alors, mesdames, on va aborder l'avant-dernier virage de cette émission. Hein. Je rappelle donc, nous parlons de Dr. Rose, de la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire, de ce que vous faites en tant qu'activiste aussi. Alors, malheureusement, on l'a indiqué, ça impacte pas seulement la patiente, mais aussi tout son environnement, famille, connaissances et autres. Parlons un peu donc du vécu des patientes et de l'accompagnement. Alors, vous qui êtes dans ce domaine, qui travaillez régulièrement avec ces femmes qui sont impactées par le cancer du sein, quels sont les défis émotionnels, psychologiques auxquels les femmes atteintes du cancer du sein sont confrontées? Docteur Dosso, on va commencer par vous d'abord, avant que Mme Tralou ne nous partage sûrement quelques expériences dans ce domaine.
D'accord. Alors, au plan émotionnel, le diagnostic de cancer, c'est dévastateur. Ça fait peur, c'est angoissant, c'est un bouleversement émotionnel important que la femme doit vivre, et parfois, elle le vit seule. Et en plus, ça touche la sphère génitale, on a peur d'en parler, donc il y a un repli sur soi, un abandon total, et parfois, dans l'isolement, beaucoup meurent dans des conditions difficiles. Au plan psychologique, oui, non, ça affecte psychologiquement, ça, le poids est lourd. Alors, ces dernières années, on parle de plus en plus de la santé mentale. Donc, il y a des prises en charge qui se mettent en place. Je sais qu'au CNRAO, il y a une cellule d'aide aux femmes vivant avec le cancer. Et donc, on essaie de les soutenir. Voilà.
Très bien. Madame Tralou, un additif là-dessus? Parce que vous, c'est au quotidien que vous rencontrez ce genre de difficultés.
Mais chaque jour. Chaque jour, donc c'est...
Vous devenez des psychologues par procuration, par obligation?
Oui, par procuration.
Voilà.
Par procuration. Tout à l'heure, j'étais même déjà à la radio ici, et il y a une qui m'a appelée parce que je lui ai demandé de venir se faire dépister
au palais de la culture.
Ce jeudi, elle me dit, mais et si je viens qu'on dit que j'ai le cancer? Et je lui dis que, mais qui t'a dit que tu as déjà le cancer? Déjà, il faut que tu sois libérée pour pouvoir venir de chez toi au palais de la culture. Ça veut dire que tu es libérée et tu sais que tu es en bonne santé. Tu viens pour savoir. Maintenant, si c'est négatif, ça veut pas dire que c'est la mort. Donc, je t'encourage à venir demain matin à te faire dépister. Bon, elle a rigolé comme ça. Elle dit, c'est pas sûr. J'ai dit, mais c'est sûr parce que je t'envoie une voiture te chercher. Et puis, bon, elle a rigolé parce que tout ce qu'elle m'expliquait, il fallait qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne se faire dépister.
Pour être rassurée.
Pour être rassurée.
Parce il y a un risque quelque part.
Il y a un risque quelque part parce qu'elle m'a expliqué longuement. Et je lui ai demandé de venir se faire dépister. Donc, comme docteur Dessou le disait, le côté... psychologique, c'est très, très, très important.
Alors, sur ce point, comment est-ce que les proches peuvent-ils, eux aussi, soutenir une personne atteinte du cancer du sein? Parce qu'il y a beaucoup qui nous écoutent. Voilà, c'est aussi important de dire qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes si on a dans notre famille, on a une connaissance qui est atteinte du cancer du sein. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de soutien, docteur Dosso?
Mais alors, le soutien est psychologique. Déjà, c'est ne pas se savoir seul face à la maladie, c'est très important. Ne pas se voir isolé, écarté du reste de la famille, c'est important. Et puis voilà, garder la foi, c'est important aussi pour moi de savoir que la famille se bat avec soi, qu'on n'est pas seul face à l'épreuve. Il faut être fort mentalement pour accompagner une personne malade parce que il faut lui donner de l'énergie. Il faut puiser en soi de quoi la faire sourire, lui permettre de garder espoir. Donc c'est très important.
Très bien. Madame Tralou?
Additif. Oui, comme elle a dit, hein, au risque de se répéter, il faut les rassurer. Il faut rassurer cette personne malade-là, même quand elle n'est pas malade, avoir la foi. Et moi, mon message, très souvent, c'est sur le message de la foi que je parcours les marchés. Il faut avoir la foi en toutes choses.
C'est ça.
Parce que rien n'est impossible à celui qui nous a créés.
C'est ça.
Et donc, il faut avoir la foi pour dire qu'il y a celui, il y a des gens qui ont été guéris. Si elle ou elle a été guérie hier, ça veut dire qu'aujourd'hui ou demain, moi, je peux être guérie de ça.
C'est ça.
Donc, il faut avoir la foi et puis affronter la chose.
Très bien, mais avant de suite, avec votre permission, en indiquant aussi qu'il faut avoir la foi, mais comme vous l'avez si bien dit, il faut aussi poser soi-même les premiers pas.
C'est ça.
Et puis voilà, cette foi peut vous aider aussi, parce que si je reste à la maison et puis bon, je vais guérir miraculeusement,
non.
je ne suis pas non-croyant, mais je vais dire, bon, bref, voilà. Il faut t'aider, comme on dit, le ciel t'aidera. Donc, fais soi-même quelque chose pour que, n'est-ce pas, celui qui est au-dessus puisse nous aider. Alors, mesdames, on va finir. Donc, merci en tout cas d'être venu, mais on va finir vraiment sur ce point. Alors, c'est un mois, octobre, dédié donc à tout ce qu'il faut comme activité autour de la sensibilisation, de l'information, de la lutte contre le cancer du sein. Alors, pour vous, pourquoi une telle célébration au plan mondial est importante? Qu'est-ce que vous attendez de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien? Docteur Dossou Didi, je rappelle, donc médecin chirurgien, membre de la Fondation des femmes tsunamites en action.
D'accord. Alors, au plan mondial, les femmes paient un lourd tribut au cancer féminin, qui sont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Ce n'est pas l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est une affaire mondiale déjà. Donc, nous ne sommes pas à part. Nous subissons tous les mêmes problématiques. Il est important pour les hommes, dont je rappelle que 1% des cas de cancer du sein concerne les hommes. Donc
j'ai
les hommes.
J'ai apporté la question pour la fin pour dire bon, mais allez-y, parlez-en en même temps. Voilà. C'est pas seulement les femmes.
Les hommes aussi peuvent être atteints du cancer du sein et faire des formes foudroyantes. Donc les hommes aussi, dès qu'ils voient une déformation, une anomalie, une modification de leur sein, ils doivent aller consulter. Maintenant, c'est important que les hommes sachent ce qui arrive à leur partenaire. Nous sommes arrivés dans des régions où les hommes ne voulaient pas que leur partenaire, leur femme, leur épouse conjointe aillent se faire dépister.
Ah bon?
Alors, oui, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, nous voulons que les hommes aussi aient l'information. Et j'appelle toute la population, les hommes et les femmes, à garder l'écoute lorsqu'on fait de la sensibilisation. Peut-être parce que vous avez compris ce qui se passe. Vous pouvez aider quelqu'un à côté de vous, une voisine, une amie, une parente, à faire le pas vers le milieu médical pour se faire diagnostiquer. Donc, lorsqu'on sait, on partage l'information. C'est ce qu'on cherche.
Merci déjà pour cet appel, docteur Dossou, donc Didi. Merci d'avoir touché le point par rapport à l'homme. J'avais prévu ça pour la fin. Voilà, ce n'est pas seulement la femme qui peut être touchée par le cancer du sein. Oui. Nous avons focalisé cette émission sur le cancer du sein chez la femme parce qu'elle est la plus grosse victime aujourd'hui. Mm-hmm. Mais l'homme aussi peut. Il doit se faire dépister.
Tout à fait.
Madame Tralou, Martine, présidente de l'ONG Ciel Bleu, membre de la coalition de lutte contre le cancer du sein. Vous aussi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne ou qu'est-ce que vous voulez lancer comme appel à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis?
L'appel, c'est toujours le même appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, qu'elles aillent vers les centres de santé, se faire dépister. Actuellement, c'est le mois du cancer du sein, l'octobre rose. Et suis partout dans le monde entier, hein. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Donc je demanderai à toutes ces femmes qui sont dans les villages, qui sont dans les bureaux, qui sont partout dans les marchés, quand elles entendent qu'il y a un dépistage qui n'est pas loin de chez elles, elles informent son entourage, elles se rendent au dépistage, c'est gratuit. Voilà, donc je demande à toutes les femmes de se faire dépister pour pouvoir vivre longtemps et en bonne santé.
Très bien, merci pour ce mot, en tout cas qui est une belle formule, qui pourrait être la formule de fin. Mais cependant, il est important aussi de souligner que c'est vraiment pas d'octobre rose, mais s'il faille se limiter au mois d'octobre, mesdames.
Absolument pas. Le cancer du sein, on lutte contre ce cancer-là tout au long de l'année. Une année, c'est long. C'est pour ça que les femmes doivent faire l'autopalpation mensuelle. Et c'est pour ça que nous invitons les femmes à se prendre en charge. Au mois d'octobre, c'est gratuit. Donc, qu'elles sortent massivement. La COLCC dont Madame Trollo et moi faisons partie, nous organisons déjà ce jeudi 10 octobre une journée de dépistage au Palais de la Culture. Le 19 octobre, la Fondation se trouve au lycée classique, c'est pratiquement une institution. Nous invitons les femmes à sortir massivement. Il est important que, mais tout au long de l'année, il faudrait qu'elles s'organisent. Les ONG sont là, le programme est là, qu'elles s'organisent pour qu'il y ait des dépistages dans leur entourage. Nous sommes prêts à nous déplacer et à les aider.
Très bien. Je précise, n'est-ce pas, quand vous parlez de CLCC, c'est bien sûr la coalition de lutte contre le cancer.
C'est ça, coalition des organisations de lutte contre le cancer.
Merci à toutes les deux. Merci. Sur ce, nous allons donc remercier aussi les auditrices et auditeurs qui nous ont suivis. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre, mais surtout à saisir donc ces messages donc d'information, mais aussi de sensibilisation, d'appel à la solidarité, à l'action lancée donc par mes deux invités du jour, savoir Dr Dossou Didi, médecin chirurgien, membre de la Fondation des femmes tsunamites en action, et Madame Tralou Martine, présidente de l'ONG Ciel Bleu et membre de la coalition de lutte contre le cancer. Et je ne saurais aussi vous dire au revoir, mes auditrices et auditeurs, sans remercier mon collègue Sila Kaba, qui donc s'est chargé de la prise de son spécialement pour ce numéro tout aussi spécial, consacré, je le rappelle, à la lutte contre le cancer du sein à la faveur du mois d'octobre rose en Côte d'Ivoire. Sur ce, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne suite d'écoute de nos programmes et surtout, la santé est importante. Le mois d'octobre, c'est octobre rose. Soyons toutes et tous engagés auprès des activistes comme ces deux ONG. À très bientôt pour sujet de discussion sur Radio de la Paix.
C'était sujet de discussion.
Présentation Aoussi Pota.